France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Une conférence de presse de près de 2 heures, une interview de 22 pages, et on peut comprendre la déception puisque ni Édouard Philippe ni Emmanuel Macron n'ont parlé de l'ouverture d'une zone naturiste dans le bois de Vincennes. Alors est-on vraiment sûr du sens de la priorité de ce gouvernement? En tout cas, on s'interroge. Ce soir, nous parlerons bien sûr des fameuses ordonnances présentées ce midi, on les connaît. Enfin, ça y est, et également de cette très très longue interview du président de la République. Et donc, pour en parler ce soir, nous recevons l'écrivain et généticien Axel Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Également Stéphanie Von Heu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Henri Vernet, du Parisien, bonsoir.
Bonsoir.
Claude Soula, de l'Obs, bonsoir.
Bonsoir.
Et également, pour cette première demi-heure, Sophie Binet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT Cadre. Les informés de France Info sans ordonnance, c'est parti. Alors c'est un tic de langage qui devient très contagieux au sein du gouvernement, le fameux « et en même temps ». Vous savez, presque une théorie politique réfléchie par Emmanuel Macron pendant la campagne. En ouvrant sa conférence de presse, le Premier ministre a déclaré « nous savons que le droit du travail n'est pas la première cause du chômage en France ». Avant d'ajouter « personne aujourd'hui ne peut sérieusement soutenir que notre droit et notre droit du travail favorisent aujourd'hui l'embauche ». Voilà. Bon, on ne sait pas où vous pensez. Bref, 5 ordonnances ont donc été présentées après un suspense de plusieurs semaines et d'interrogations palpitantes. Indemnité prud'homale, représentation syndicale, référendum en entreprise, CDD, CDI, la panoplie est complétée et elle fait parler et les sentiments sont différents, notamment chez les syndicats. On va les entendre. Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT et Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière.
Une profonde déception sur l'opportunité qui était offerte de moderniser les relations sociales dans notre pays.
Toutes les craintes que nous avions se confirment. Peut-être découvrir d'ailleurs de nouvelles surprises à la lecture de ce texte. La crainte évidemment supplémentaire, c'est que, et là c'est évident et c'est écrit, c'est la fin du contrat de travail.
Heureusement que nous avons fait notre travail syndical, sinon depuis le mois d'août, les ordonnances auraient été publiées et tout le monde pleurerait aujourd'hui.
Voilà, donc ça, ce sont les syndicats assortis de Matignon. Alors, Sophie Binet, ce qui frappe, c'est quand même la différence, justement, sur ce front syndical. Quand vous entendez Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière qui dit que le travail syndical a été fait?
Oui, effectivement, il y a eu des concertations auxquelles les syndicats ont participé. Cela dit, l'ensemble des organisations syndicales sont très critiques. Moi, ce que je retiens, c'est que l'ensemble des organisations syndicales sont très critiques sur le contenu de ces ordonnances, qui confirment les révélations du mois de juin que le gouvernement avait pourtant démenti. Parce qu'on se souvient qu'il y avait eu des choses publiées juste avant les législatives. C'était l'occasion d'en débattre avec les électeurs. Là, le gouvernement nous dit non, on ne va pas du tout faire ça. C'est un juriste isolé. Bon, c'est exactement ça qui avait été publié par la presse à l'époque, et que le contenu de ces ordonnances contient de graves reculs pour les salariés. Moi, je retiens notamment la fin de toutes les protections contre les licenciements abusifs et notamment pour les cadres, la généralisation des CDI de projet pour l'ensemble des cadres qui travaillent aujourd'hui en mode projet. Ils pourront être recrutés sur ce type de CDI qui sont moins protecteurs que les CDD aujourd'hui. C'est quand même un tour de force. Je retiens aujourd'hui également les pleins pouvoirs à l'employeur dans la négociation d'entreprise avec pour 51% des salariés qui sont dans les entreprises de moins de 50 salariés, la possibilité de contourner les syndicats et de négocier sans syndicat. Et puis enfin, baisse des salaires au programme avec la possibilité, dans ces négociations sans syndicat, de revenir sur une partie importante de la rémunération, comme le 13e mois, les primes de départ en retraite, les primes supralégales en matière de licenciement, qui sont très importantes pour les cadres.
Sophie Binet, qu'est-ce que vous diriez finalement après toute cette concertation au mois de juin, on nous a dit il va y avoir près d'une vingtaine de réunions, finalement pour rien, alors?
Oui, ça n'a pas changé grand-chose.
Sur la méthode, finalement, cette méthode aujourd'hui, est-ce que ça a servi à quelque chose?
Cette méthode, elle a surtout servi à avoir une stratégie d'opacité vis-à-vis des salariés et à maintenir pendant deux mois un brouillard qui a empêché aux salariés de se préoccuper de ce qui les concerne au premier plan, c'est-à-dire leurs droits. C'est la raison pour laquelle nous faisons un grand travail d'information et les salariés peuvent retrouver sur le site ugict.cgt.fr le décryptage intégral de ces ordonnances parce que c'est important qu'ils sachent ce que ça va changer pour leurs droits au quotidien.
Axel Kahn, ce qui est assez étonnant, c'est cette méthode, justement. Cette méthode avait été mise en avant. Avant, Édouard Philippe en a encore reparlé pendant sa conférence de presse. Il a dit nous avons une très bonne méthode de concertation. Et pourtant, on voit qu'un syndicat, ce qui a peut-être étonné beaucoup de gens aujourd'hui, comme la CFDT réformiste, s'est dit déçu.
Oui, de toute façon, la CFDT réformiste,
qui n'appelle pas, je crois, à manifester
non, le 12 septembre.
Pour le 12, ne pouvait pas, parce qu'il y a des avis qui sont variés dans les syndicats CNDT, elle ne pouvait pas avoir une position qui semblait collée à celle du gouvernement. C'était syndicalement impossible. Et même pour Mailly AFO, je pense qu'il est prudent, même si c'est probablement celui qui a le plus évolué depuis la loi El Khomri, il ne pouvait pas. Il n'empêche que, et ça contrairement à ce que dit Madame Binet, moi j'ai observé qu'il y a une vraie différence de tonalité dans les réactions des syndicats. Certes, aucun ne dit qu'il est enthousiaste, c'est tout à fait normal, mais il y a une vraie différence. Et je pense que, d'un point de vue stratégique pour le gouvernement, le but de cette stratégie, c'était peut-être ce qu'a dit Madame Binet, sans doute même, mais c'était également d'obtenir cela, c'est-à-dire d'obtenir, on va dire, un affaiblissement du front syndical.
Et c'est ça, Henri Vernet ?
Mais oui, complètement. C'est-à-dire que cette méthode, elle était extrêmement efficace. Elle n'était peut-être pas ni très morale, ni très démocratique, mais c'était totalement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Plutôt que de faire des réunions, comme on a vu ce matin, où il y avait tous les syndicats patronaux, salariés, etc., c'était pas des réunions multilatérales. En fait, c'était des tête-à-tête. Et encore des tête-à-tête dans des conditions qui rappellent un peu, vous savez, les grandes entreprises quand elles se protègent de l'espionnage industriel. C'est-à-dire, c'était quoi les rendez-vous ? Vous aviez un représentant des différentes centrales et un membre du cabinet, en l'occurrence c'était le directeur de cabinet, qui donnait par oral les principales avancées des textes à ce moment-là, et qui disait voilà ce que vous aurez, mais attendez, vous ne pouvez même pas regarder le texte, prenez des notes éventuellement. Tout ça pourquoi ? Pour avoir, en fait, pour garder ce secret, cette opacité, vous dites, bon, en tout cas disons un secret de, non pas de négociation mais de concertation, de manière à pouvoir avoir des marges de manœuvre et de pouvoir dire des choses différentes et de négocier des choses différentes avec chacun des syndicats et non pas tous ensemble au même moment avec le même texte. Donc c'était vraiment une méthode. Et pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça ? Parce qu'il s'est dit fort, Macron, puis son gouvernement, de la légitimité démocratique, celle de l'élection, puisque cette réforme avait été annoncée assez largement dans la campagne présidentielle et puis même pendant la législative.
Alors on va continuer justement à en parler de cette réforme du droit du travail. On va rentrer dans le détail dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le gouvernement fait le pari du dialogue et de la confiance, parole de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle avance 36 mesures pour réformer le code du travail. Un plancher et un plafond pour les indemnités aux prud'hommes. En contrepartie, les indemnités légales de licenciement augmentent de 25%. Le dialogue social pourra se faire sans les syndicats dans les entreprises de moins de 50 salariés. Toutes nos craintes sont confirmées. Philippe Martinez le déclare à la sortie de Matignon. Pour le leader de la CGT, c'est la fin du contrat de travail. Pour le MEDEF, Pierre Gattaz salue une première étape importante, mais se dit vigilant sur les décrets d'application. Laurent Wauquiez est très officiellement candidat à la présidence des Républicains. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes le déclare dans le Figaro à paraître demain. Il veut faire renaître l'espoir à droite. Il faut, dit Laurent Wauquiez, que la droite soit vraiment de droite. Cette fois, c'est fait pour Kylian Mbappé. France Info vous le révélait dès 18h. Le footballeur monégasque est prêté au PSG pour un an avec option d'achat pour un montant de 180 millions d'euros. Le mercato prend fin ce soir à minuit en France. Et puis l'organisation État islamique chassée de l'un de ses derniers bastions en Irak. La coalition internationale et les forces irakiennes ont conquis à nouveau aujourd'hui Tal Afar et la totalité de la province de Ninive. Selon la coalition, Daesh ne dispose plus que d'une ville au nord de Bagdad et trois localités du désert frontalier de la Syrie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, depuis le temps qu'on les attendait, on s'est même angoissé pendant les vacances, ça y est, on connaît le contenu de ces fameuses ordonnances pour la réforme du Code du Travail. Stéphanie Von E, vous êtes des Républicains. Finalement, dans cette réforme, il y a des choses qui vous conviennent. On retrouve même quelques éléments presque du programme de François Fillon dedans.
Ah oui, clairement. C'est d'ailleurs ce dont nous avons considérablement pâti il y a encore quelques mois, où effectivement une partie de l'électorat dit de droite s'est retrouvée dans un certain nombre d'orientations d'Emmanuel Macron, président dit pro-business, et notamment tous les chefs d'entreprise, mais en particulier des petites et moyennes entreprises, des artisans, où on s'aperçoit que dans le commentaire qui est fait sur ces différentes ordonnances, ceux qui sont le plus dithyrambiques sont précisément ces catégories-là. Et effectivement, moi, en plus à titre personnel, je n'ai vraiment pas grand-chose à retirer des orientations qui sont données. Dès l'instant où on va plus vers plus de souplesse, de flexibilité, et en même temps, contrairement à ce qui est dit, un certain nombre de mesures qui vont plutôt dans la davantage de sécurité des salariés, parce que la première sécurité des salariés, déjà, c'est d'être salarié.
Oui.
Accessoirement, c'est quand même juste ça au départ l'idée, et ensuite par exemple sur la fusion des différents organismes, moi il se trouve que je m'occupe des relations, enfin des ressources humaines dans une collectivité.
Les différents comités,
absolument, c'est un magma d'une complexité extrême, et je peux vous dire que vous avez un certain nombre d'agents ou de salariés qui ne savent pas à quel sein se vouer. Ça donnera davantage de visibilité, de lisibilité et une obligation précisément pour l'employeur de devoir traiter avec ces organismes-là.
Sophie Binet.
Non, mais justement, par rapport à cette question-là, il y a deux conséquences à la fusion des instances de représentation du personnel. La première, c'est la disparition du CHSCT, l'instance qui est en charge de la santé des salariés. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a chaque année 100 000 cadres qui sont en burn-out, un mort par jour sur un chantier en France. Donc c'est
pas dans les grandes entreprises.
Les CHSCT, oui. Pour les plus 300, il y aura une commission, mais l'instance n'est pas maintenue en tant que telle. Et la deuxième conséquence, c'est que toutes les instances de proximité disparaissent. Par exemple, à Orange aujourd'hui, il y a 1000 délégués du personnel, 19 comités d'entreprise. Les 1000 délégués du personnel vont disparaître et il y aura seulement 19 comités d'entreprise. Donc il n'y aura plus aucune proximité avec les salariés qui, quand ils auront besoin de leurs élus du personnel, qu'ils connaissent, je ne suis pas d'accord avec vous, ils ne pourront plus les trouver, ils ne seront pas en proximité.
Vous voulez répondre, Sophie Binet, ou pas?
Non, je pense qu'on va pas se convaincre, très clairement. Bon. Mais moi, j'ai un constat qui n'est pas le même.
Alors, Claude Soula, justement, il y a quand même une chose. On se dit, Emmanuel Macron, pendant la campagne, nous disait que tout ça allait se régler au niveau de l'entreprise. Là, on se rend compte que finalement, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la branche qui va régler la chose. C'est là-dessus, finalement, que les syndicats ont...
Il fallait bien donner quelque chose aux syndicats, puisque moi, ce qui me frappe le plus, c'est effectivement que ça se passe très bien avec les syndicats. Monsieur Martinez appelle à manifester, il n'est pas content du tout. Enfin, FO, qu'on avait connu totalement remonté contre la loi El Khomri, est devenu quasiment le principal supporter du gouvernement, et la CFDT a râlé pour la forme.
Elle est très critique quand même. C'est rare d'entendre la CFDT aussi critique.
C'est rare, mais parce qu'elle est vexée par le fait que FO lui est passé devant.
La CFDT est très critique.
Justement, ça, Axel Kahn, est-ce que pour vous, c'est ça qui vous étonne aussi quand on le voit aujourd'hui? Est-ce que finalement, cette loi, on parlera tout à l'heure d'Emmanuel Macron et de son interview, il dit que c'est une révolution copernicienne. Est-ce qu'on en est là, ou alors finalement Emmanuel Macron mis un peu d'eau dans son vin?
Non, je crois, vous savez, on dit il y a eu tactiquement une certaine obscurité, notamment pour dissocier les syndicats. Ça me semble totalement évident, et je crois que ça, c'est une réussite, parce que, contrairement à ce que vous dites, madame, de la même manière, j'ai bien vu que c'était pas un bout de feu que
le premier
secrétaire de la CNDT, pour le moins, c'était service minimum de la protestation. Mais, dans le fond, vous regardez les mesures, c'est-à-dire vous regardez un nouvel équilibre entre la branche et l'entreprise. Vous regardez une limitation des dommages et intérêts au prud'homme, avec une augmentation, en revanche, des indemnités de licenciement, etc., etc. Mais bien avant même la présidentielle, c'était ce qui était sur la table. Non. Et le gros problème, c'est que l'essentiel, effectivement, de cette loi... Moi, j'ai combattu cette... Je suis plutôt un social-démocrate keynésien. Donc, je l'ai combattu et j'ai dit que c'était une mauvaise orientation. Mais je la connaissais parfaitement. Pour une fois, alors que Hollande nous avait sorti un truc tout à fait à l'inverse de ce qu'il avait promis, là, pour le coup, il essaye de faire ce qu'il a dit qu'il essaierait de faire. Et ça, c'est très nouveau. Hein.
Et donc, alors, Sophie Binet. Pourquoi est-ce que, quand ces orientations ont été révélées par Le Parisien une semaine avant le premier tour des législatives, pourquoi est-ce que le gouvernement a démenti alors que c'est exactement ce qui sort aujourd'hui? C'est la question que je pose tout simplement.
Alors finalement, Henri Bernet, dans Le Parisien, vous aviez vu.
Non, mais ça, on l'a toujours dit. On était droit dans nos bottes, on a toujours dit qu'on était absolument... Enfin, pas
et
sûr.
Et à l'époque, le gouvernement a démenti,
pour cette raison de méthode, puisque toute la méthode efficace consistait à diviser, en quelque sorte, à faire les concertations, non pas négociations, mais concertations, donc chacun séparément,
pour ne pas savoir ce qui est dit, ce n'est pas vrai de dire qu'Emmanuel Macron a mandat sur ces mesures, puisqu'il a refusé de les révéler avant les élections.
Alors, disons, sur la philosophie...
Les conditions de son élection, j'en parle même pas. J'ai voté pour lui, je vais faire une révélation.
Ah, ça, très bien, je
note. C'est pas mal, CGT, est-ce que vous êtes majoritaire à la CGT?
Alors, tout à fait, Philippe Martinez a appelé à faire barrage.
Oui, c'est vrai, Stéphanie Monneux.
Juste sur la méthode, au-delà de l'opacité, il y a aussi quelque chose qu'on peut constater, c'est que Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs, il est allé très loin en disant la France est irréformable. D'autres d'ailleurs avaient plus ou moins dit le même genre de choses. Mais c'est surtout que la réforme, c'est vrai, est difficile en France. Et elle est d'autant plus difficile quand on ne peut pas en parler de manière sereine. Et effectivement, dès l'instant où vous avez un certain nombre de fuites, où les médias s'en emparent, où les réseaux sociaux s'en emparent, vous perdez le fil et le contrôle de la discussion, et ça rend effectivement les choses beaucoup plus difficiles.
Je vais juste faire aussi une révélation, c'est le soir des révélations. Vous savez, parfois, ça arrive que des politiques fassent fuiter pour sonder aussi parfois l'opinion.
Ça, c'est pas totalement exclu.
Voilà, donc je vous le dis, ça peut arriver aussi que parfois, c'est comme ça.
Mais là, en l'occurrence, on sait très bien que, d'ailleurs, je me souviens, pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne législative sur ce plateau même, on disait tous que ces fameuses ordonnances, c'était totalement explosif, et que donc précisément le gouvernement prend quelques dispositions préalablement pour éviter que ça pète tout de suite.
Henri Bernet.
Pour être précis sur les révélations, je suis d'accord avec Axel Kahn que la philosophie de la loi, le but, l'idée de vraiment de redonner beaucoup plus de marge de manœuvre à l'entreprise elle-même, donc ce qu'il a appelé, lui, enfin vous disiez révolution copernicienne, c'est-à-dire en gros, est-ce que l'entreprise remplaçait la branche ?
C'est ça.
Et bon, c'était ce qui se dessinait dans le document qu'on avait publié donc dans Le Parisien en juin, et là-dessus, il faut bien dire que justement, toute cette série de nos dégos, mais attendez, pourquoi est-ce que le Front syndical est divisé aujourd'hui ? Parce qu'en effet, Jean-Claude Mailly, qui était l'opposant numéro un à la loi El Khomri, aujourd'hui, non pas un zélote, mais quand même, est en effet quasiment rallié au gouvernement. Pourquoi ? Parce que justement, il a sauvé la branche. Parce que FO est fort dans les branches et faible dans les entreprises. Et ça, c'était exactement l'un des éléments entre le doc que nous avons publié en juin et cette série de concertations face à face, dans le secret, etc. Pas de notes, enfin juste des notes, pas de documents. Eh bien, c'est ça qui a été négocié avec Mailly, avec le patronat de notre côté, et puis à la CGT qui est restée sur un camp du refus très, très net.
Sophie Binet.
Mais deux choses. Je peux pas vous laisser dire que pour réformer sereinement, il faut réformer dans le dos des Françaises et des Français et dans le dos des salariés. Parce que c'est ce que vous venez de dire.
Non,
je ne réponds pas à vous. C'est ce que vous venez de dire précédemment. Je pense que c'est très important, et c'est ce que le gouvernement a refusé de faire, de porter à connaissance des salariés le contenu de sa réforme et la conséquence pour leurs droits. Et donc, je vais prendre un exemple, justement, qui montre que c'est pas vrai que la branche est sauvegardée. Par exemple, sur la question des droits familiaux, ce qui garantit aujourd'hui dans un certain nombre de branches, et dans toutes d'ailleurs, que les femmes et les hommes aient des jours d'absence autorisés si leurs enfants sont malades, eh bien, aujourd'hui, ces droits sont remis en cause, puisque ça n'est pas sécurisé au niveau de la branche. Pareil sur le 13e mois, pareil sur la prime de départ en retraite, pareil sur les primes supralégales en matière de licenciement. Donc, c'est pas vrai que la branche est sauvegardée, et il y aura des baisses de salaire importantes et des effets de dumping extrêmement néfastes dans le pays.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
La réforme du Code du travail n'est pas à la hauteur. Le regret de Laurent Berger pour la CFDT après la présentation des ordonnances ce matin à Matignon. Pour la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la réforme tant attendue est au rendez-vous. Le texte instaure un encadrement des indemnités prud'homales. Elles seront plafonnées à 3 mois de salaire jusqu'à 2 ans d'ancienneté, à 20 mois au-delà de 28 ans d'ancienneté. Un suspect toujours gardé à vue après l'enlèvement de Maïlys à Pont de Beauvoisin. Perquisition chez cet homme de 34 ans entre Isère et Savoie. Il n'était pas sur la liste des convives du mariage, mais c'est un invité de dernière minute. La petite fille de 9 ans reste introuvable. Les États-Unis prêtent à envoyer de nouvelles troupes en Afghanistan. Confirmation ce soir du secrétaire à la Défense, 10 jours après le discours de Donald Trump. Jim Mattis ne donne aucun chiffre. 11 000 soldats américains sont déjà stationnés et en place en Afghanistan. Des fleurs, des bougies, des photos devant son palais londonien. Plusieurs centaines de personnes ont tenu ce matin à rendre hommage à la princesse Diana. Hommage d'Elton John sur son compte Twitter. Il y a 20 ans aujourd'hui, le monde perdait un ange. Et puis les galeries Lafayette veulent se développer sur la toile avec un projet de rachat de la Redoute. Le grand magasin parisien veut prendre de la vitesse dans le e-commerce. Les galeries ne réalisent que 2% de ventes en ligne aujourd'hui. Objectif 10% en 2020, dans 3 ans.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, les ordonnances concernant la loi travail. On a entendu les syndicats qui étaient mi-chèvre, mi-chou, voilà une expression que je n'avais jamais utilisée, mais bon, il faut le faire maintenant.
Qui était même très chèvre.
Exactement, qui ça
très opposé.
Ah oui,
parfaitement cohérente avec la position antérieure.
Exactement.
Alors, que les choses soient très claires, votre cohérence, aucun d'entre nous ne met en doute la cohérence de votre action et de vos critiques.
Alors, oui, non, mais j'en ai n'ai à peu près rien à faire. La question, c'est le contenu. Non, mais la cohérence, c'est pas intéressant. La question, c'est le contenu de la réforme. C'est les salariés qui doivent décider.
Je vais vous faire entendre juste une personne qui est presque ravie, presque content finalement d'avoir écouté le Premier ministre ce midi expliquer ses ordonnances. C'est le patron des patrons, Pierre Gattaz.
En première analyse, cette réforme nous apparaît comme une étape importante et intéressante qui peut aider à conforter la confiance des chefs d'entreprise et à faire bouger les lignes pour le bien de nos entreprises, des salariés et du pays.
Voilà, Pierre Gattaz, donc cet après-midi après la présentation des ordonnances. Sophie Binet, finalement, quand vous entendez aujourd'hui Pierre Gattaz?
Il est très cohérent.
Aussi,
il faut parler de ça. Non, mais il a de bonnes raisons d'être heureux parce que avec cette réforme, si elle est adoptée, la France deviendrait le paradis des licenciements avec une des législations en Europe les plus souples en matière de licenciement collectif, puisque l'Allemagne a des protections beaucoup plus importantes pour protéger les salariés des licenciements boursiers en cas de licenciement collectif.
Henri Vernet.
Non, je trouve ça curieux comme formule, le paradis des licenciements. On a vraiment l'impression que là, on aurait un patronat, on aurait des chefs d'entreprise qui seraient là uniquement, qui attendraient des réformes uniquement pour pouvoir virer les gens qui viennent d'embaucher. Là, je comprends pas. Je comprends qu'on soit, voilà, qu'on défende des acquis, qu'on défende des positions, que la CGT a la sienne. Bon, il est vrai aussi quand même que la CGT, ça fait un bout de temps qu'elle est systématiquement un petit peu contre toute réforme. Je veux dire que quand Macron dit que les Français n'aiment pas la réforme, c'est quand même spécialement vrai de la CGT de Martine. Ce n'était pas celle de Thibault.
La CGT proposition sur le droit à la déconnexion et a réussi à obtenir un nouveau droit à la déconnexion pour les cadres.
Alors, après, donc, y compris par la CGT.
Juste une chose.
La CGT des cadres fait de nombreuses propositions pour définanciariser l'entreprise.
Il y a quelques gouttes d'eau quand même dans un océan de refus.
C'est pas une goutte d'eau. La question d'avoir 50% d'administrateurs salariés comme en Allemagne, c'est pas une goutte d'eau.
Sophie Binet, juste une chose. Claude Soula, il va y avoir donc ils vont fixer une indemnité, donc plafond, pour les indemnités prud'homales, pardon. C'est une démarche qui a déjà existé, d'ailleurs, de la part d'Emmanuel Macron en 2015, qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Pourquoi cette fois-ci, finalement, ça passerait? Est-ce que c'est déjà... Ça a été censuré deux fois, d'ailleurs.
Ça a été censuré deux fois, mais là, cette fois-ci, effectivement, il y a beaucoup moins d'opposition dans toute la société. Enfin, les fois précédentes, toutes les réformes, il y avait quand même une opposition beaucoup plus générale. Enfin, là, je sais bien que la CGT reste contre, mais enfin, faut bien remarquer que le basculement essentiel, c'est quand même celui de FO. Et la CFDT... plus la CFDC, enfin finalement, il y a peut-être la CGC qui est devenue une des principales opposantes.
Fédération générale des cadres, parce que 70% des cadres ont voté Macron.
La CGT n'est pas si isolée que ça, mais le plafonnement des indemnités prud'hommes, encore une fois, on en connaît le montant que depuis ce matin. Et donc la vraie question, c'était le montant. Et là, les salariés vont pouvoir faire leur compte et se rendre compte que le niveau du plafond est extrêmement faible, avec une baisse du plancher minimum, notamment pour les licenciements discriminatoires, pour harcèlement, etc. Donc là, le compte et la bataille de l'opinion, elle va commencer maintenant. Alors, il y a toujours une majorité de salariés qui sont opposés. Alors, sur la censure du Conseil constitutionnel, elle avait porté sur la question de la différenciation en fonction de la taille de l'entreprise. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas retenu la même modalité. On va voir ce que le Conseil constitutionnel va dire cette fois.
Justement, Axel Kahn, aujourd'hui, cette mobilisation sociale, on sait que la CGT appelle à manifester le 12 septembre, les Insoumis, justement, le 23 septembre. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a pas grillé la politesse de ces syndicats et que c'est aujourd'hui cet opposant numéro un qui pourrait plus mobiliser que les syndicats eux-mêmes?
On va dire que la forme de l'opposition sera modifiée par rapport à ce qu'elle était à la loi El Khomri. Il y a une grande continuité. Moi, je m'amuse un peu parce que ça fait la troisième fois, ici, avec vous, Jean-Mathieu, que je parle de la loi travail. Et la première fois, c'était avec Édouard Philippe.
Exactement.
Qui était à la place de madame.
Voilà. Alors, on peut aller très loin, vous savez, dans les informés.
Il a fait du chemin, depuis.
Voilà. Exactement.
C'est ça, les informés, c'est bien.
Exactement. Ah oui, non, progresse.
La grande différence. D'un côté, le Front syndical est affaibli, il faut le reconnaître. On peut le regretter, on peut se réjouir, peu importe. Mais factuellement, le Front syndical est affaibli. En revanche, avoir comme opposant aujourd'hui les Insoumis et Mélenchon, ou bien les protestataires du Parti Socialiste, une partie des socialistes, etc., c'est pas pareil du tout. C'est-à-dire que la grande modification du paysage pour ce qui est de la mobilisation, c'est que, et ça c'est une grande victoire de François Hollande, il a réussi à rétablir dans l'équilibre politique un parti de gauche, les Insoumis, à peu près au niveau où était le Parti communiste avant les années 70. Et ça...
Attendez, 17 élus, alors, 17 députés...
C'est vrai, mais 19%. Quand je dis 19%, c'est parce que c'était à peu près cela, je dis à peu près. Et ça, c'est ça qui va modifier la forme de la mobilisation. Affaiblissement syndical et modification importante de la mobilisation politique.
Une question à Sophie Minet, parce qu'après, je sais qu'on doit vous libérer. Cette mobilisation du 12 septembre, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que Jean-Luc Mélenchon, finalement, a anticipé faire une autre manifestation le 23 septembre? On sait que Philippe Martinez se pose la question de participer le 23 septembre. Est-ce que vous en savez plus?
Sur Philippe Martinez?
Est-ce qu'il va participer? Est-ce que vous allez participer, vous, le 23 septembre, avec les Insoumis?
Écoutez, je pense que cette contradiction montée en épingle n'a aucun sens. Il y a une mobilisation syndicale qui a lieu le 12 septembre avec des suites que nous déciderons collectivement. Effectivement, c'est la nouveauté qui est une opposition politique et c'est ça la difficulté pendant la loi El Khomri, c'est qu'on avait des réformes de droite qui étaient faites par la gauche. Là, de façon assez logique, il y a une opposition de gauche qui dénonce ces réformes-là. Et après, voilà.
On verra ce qui se passe ensuite.
La CGT est indépendante et n'appelle pas à une manifestation politique qui a lieu le 23 septembre. Voilà, jusque-là, c'est des choses qui sont déjà arrivées de façon extrêmement récurrente les précédentes années, donc rien de neuf.
Merci beaucoup Sophie Binet. Je rappelle, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT4. Merci d'être passée ce soir aux informés de France Info. Dans un instant, nous, on ouvrira le magazine Le Point pour parler de la très 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 longue interview d'Emmanuel Macron. C'est la suite des informés de France Info.
Quinzième édition du Moselle Open ATP 250 avec France Info. Les meilleurs joueurs du circuit professionnel de tennis s'affrontent à Metz durant 8 jours de compétition. Venez vibrer aux côtés de l'élite mondiale du tennis. David Goffin, Lucas Pouille, Richard Gasquet, Gilles Muller et bien d'autres. Moselle Open 2017, du 17 au 24 septembre aux arènes de Metz, en partenariat avec France Info.
France Info Météo avec Calipage, toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Rendez-vous dans l'un de nos magasins ou sur calipage.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Des averses demain déjà présentes le matin de l'océan vers la région parisienne et le Pas-de-Calais. Parfois avec un orage, il y aura encore un peu de pluie sur la façade est, du soleil et beaucoup de vent en Méditerranée. Ailleurs, on trouvera de belles éclaircies, juste un peu de grisaille vers la frontière belge ou les vallées du Massif central et des Pyrénées. Le tout dans la fraîcheur, 8 à 14 degrés, 14 à 20 pour la Méditerranée. L'après-midi, les averses parfois orageuses gagneront du terrain. On les retrouvera jusqu'à Champagne-Ardenne, à l'ouest de la Bourgogne, au Massif central et au nord de Midi-Pyrénées. On sera sous les valeurs de saison, 17 à 23 degrés, 19 à Paris, 21 à Cognac et à Lyon, et encore 26 à 29 degrés dans le sud-est.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les 5 ordonnances de la réforme du Code du travail dévoilées donc ce midi. Le texte prévoit un plafonnement des indemnités au prud'homme ou encore la fusion des instances représentatives du personnel. Figure aussi la possibilité de négocier des accords directement avec des salariés non élus ou mandatés dans des entreprises de moins de 20 employés. Le Premier ministre Édouard Philippe vante une réforme ambitieuse, équilibrée et juste, propre, dit-il, à favoriser la négociation. Quant à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle parie sur le dialogue et la confiance. La réforme est déjà vivement contestée à gauche et parmi les syndicats. Au Texas, en plus des inondations, une menace chimique plane désormais aussi sur les sinistrés américains de la tempête Harvey. Après des explosions accidentelles dans une usine, elles ont libéré des fumées extrêmement dangereuses d'après les secours. Le site est opéré par le groupe français Arkema. Au moins 33 personnes ont péri au Texas à cause de cette tempête Harvey. Mbappé au PSG, cette fois c'est fait, après Dani Alves ou encore Neymar bien sûr, le club parisien s'offre donc pour 180 millions d'euros les services de la nouvelle pépite du foot français, Kylian Mbappé, passé comme une étoile filante à Monaco. Sur le terrain maintenant, pas décisif mais pas loin, les Bleus reçoivent les Pays-Bas ce soir au Stade de France pour un match éliminatoire aux allures de tournant sur la route de la Coupe du Monde russe et en pleine clôture du Mercato, on vient de le voir. Le coup d'envoi c'est maintenant dans un quart d'heure, Sébastien Hazard.
Et vous arrivez juste en haut de la présentation de l'équipe de France sur écran géant. Le numéro 8, Thomas Lemar, je ne sais pas si vous entendez l'ambiance.
sera plein ce soir le Stade de France, plus de 70 000 spectateurs pour pousser les Bleus qui doivent se rassurer, qui doivent rassurer leur public, qui doivent rassurer aussi le sélectionneur, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, l'équipe de France est pas mal partie, hein, bien loin de là dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde, mais depuis cette défaite en Suède, elle n'est plus en tête de sa poule, et ce soir il faut rectifier le tir, et le minimum c'est de s'imposer. Ça sera peut-être pas suffisant si les Suédois s'imposent de leur côté en Bulgarie, mais en cas de victoire, l'équipe de France s'ouvrerait grand la route au moins de la deuxième place, de la place de barragiste, avec une équipe de France un petit peu remaniée compte tenu des absences. Les grands changements, ils étaient annoncés, mais c'est surtout N'Golo Kanté au milieu de terrain qui prend vraiment position, le meilleur joueur du dernier championnat d'Angleterre, et puis sur les côtés Kingsley Coman et Thomas Lemar. Pour le reste, c'est assez classique avec Giroud et Griezmann en attaque.
Merci Sébastien Hazard, match que l'on suivra avec vous ainsi que Jacques Vendroux et Franck Ballanger toute la soirée sur France Info. Du tennis, mauvaise journée pour les Français avec pas moins de 10 éliminations sur 15 joueurs et joueuses en lice à l'Open de tennis. C'est terminé pour Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Kristina Mladenovic. En revanche, ça passe pour Caroline Garcia, Gaël Monfils, Adrien Manarino, Lucas Pouille et Nicolas Mahut. Et puis un deuxième sacre pour Clarisse Abgenyenou. La Française a été sacrée à Budapest championne du monde de judo en moins de 63 kilos. Elle coiffe ainsi sa deuxième couronne mondiale après 2014. Deuxième médaille aussi cette année pour les Français, puisqu'une autre tricolore hier, Hélène Receveau, avait décroché le bronze chez les moins de 57 kilos cette fois-ci. 20h33 sur France Info, les informés, suite et fin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils s'habillent de l'actualité comme dans un grand manteau. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'écrivain et généticien Axel Kahn, Stéphanie Von E, vice-présidente Les Républicains de la région Île-de-France, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, et Claude Soula de l'Obs. Juste avant de parler de l'interview d'Emmanuel Macron, encore un mot, Stéphanie Von E, on parle beaucoup, bien sûr, des ordonnances. Votre candidat pour la présidentielle, lui aussi, voulait réformer par ordonnance. Est-ce que c'est un système, vous, que finalement vous soutenez toujours, ou finalement on voit que c'est un peu comme le 49-3, on a l'impression qu'on a du mal finalement à comprendre comment on peut diriger aujourd'hui par ordonnance. Beaucoup disent, à cause de ça, il n'y a plus de débat.
Non, mais la vraie difficulté, elle est plus large, j'allais dire plus vaste. C'est qu'on voit bien que le monde s'est considérablement accéléré. Il y a une impatience. On va en venir, on va en parler. Mais Emmanuel Macron en parle lui-même. Et on a aujourd'hui des institutions qui font qu'elles ont une façon et un process de prise de décision qui est 10 fois trop long. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des responsables politiques, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, ont tendance à aller maintenant vers ce type de dispositif. Le 49-3, c'est un tout petit peu autre chose. C'est parce que vous avez une vraie difficulté politique où vous ne trouvez pas votre majorité. Les ordonnances, c'est clairement, vous avez votre majorité, Emmanuel Macron a sa majorité, c'est clairement pour aller plus vite. Alors après, évidemment, dans un système démocratique, de démocratie parlementaire, ça pose effectivement question, puisque si les pauvres parlementaires, qui n'ont déjà pas beaucoup de pouvoir, peuvent même plus parler dans un débat sur des sujets aussi importants, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas certaine que ce soit un modèle à généraliser systématiquement. Mais en revanche, la question de la vitesse de la prise de décision est, à mon avis, quelque chose de fondamental.
Axel Kahn, vous, sur justement ces ordonnances, cette méthode, on a parlé de la méthode syndicale tout à l'heure, méthode de discussion, la méthode politique, les ordonnances, pour vous, est-ce que c'est quelque chose...
Moi, compte tenu de mon âge, je suis très vieux jeu, je reste extrêmement favorable au débat démocratique et notamment au débat démocratique à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je crois que même pour hâter le mouvement, il faut limiter autant qu'il est possible ce type de dispositif, puisque c'est même un dispositif qui appauvrit beaucoup le débat et qui notamment appauvrit considérablement la possibilité d'amender un texte. Et on peut l'amender sans des difficultés, mais éventuellement, on peut l'enrichir aussi. Et je crois que laisser sa place au débat démocratique, c'est tout de même la norme dans une démocratie comme la nôtre.
On rend aussi la loi illisible. Hein. C'est un vrai problème de l'évolution parlementaire aujourd'hui. Vous avez beaucoup de techniciens ou de praticiens ensuite qui vous disent que la loi maintenant, malheureusement, est mal faite, qu'elle est brouillonne et qu'elle est trop lourde. Voilà, donc je pense que je suis d'accord avec vous, on ne peut pas se satisfaire d'une absence de débat démocratique. Pour autant, aujourd'hui, ça fait vraiment perdre
du temps. On l'a redécouvert finalement pendant la campagne, presque ce mot, mais ça a été utilisé énormément de fois sur la Ve République. Il y a même des réformes très importantes qui sont passées. Hein. Pierre Mauroy, c'était quand même la semaine de 39 heures.
Mitterrand qui n'avait pas signé les ordonnances de Chirac. Oui, et là, Chirac, ça avait absolument inauguré une cohabitation politique extrêmement dure. Mais
pourquoi aujourd'hui ça paraît plus violent finalement?
Parce qu'on a assisté au 49-3, on a assisté à une assemblée qui a été sous le quinquennat précédent pendant 5 ans quasiment hystérisée. Rappelez-vous l'arrivée de François Hollande, l'arrivée de Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée il y a 5 ans. C'était tout de suite un procès en illégitimité carrément de la part de la droite et puis dans sa propre famille, les frondeurs. Bref, on a eu une assemblée qui a mal fonctionné pendant 5 ans. Et en effet, parce que comme vous l'avez souligné, il n'y avait pas de majorité. Mais juste une chose, il ne faut pas oublier, mais il y a eu un discours de Macron à peine arrivé, qui était le discours de Versailles au Congrès, où il a annoncé, c'était d'ailleurs étrangement, il a un petit peu passé sous silence, parce qu'à l'époque on avait parlé de la rivalité Édouard Philippe Macron, mais dans ce discours il a bien rappelé cette nécessité, enfin son projet de réformer la Constitution avec notamment un travail législatif nettement accéléré, moins de députés, moins de sénateurs, un travail législatif accéléré, beaucoup plus de boulot en commission, et puis surtout, et là je par rapport à ce que vous disiez Axel Kahn, les députés ils sont aussi là pour contrôler, et en France ils font pas assez ça. Notre démocratie elle est malade de ça. On a des députés qui adorent faire des lois, mais qui ne contrôle pas assez. Or, ça, c'est le cœur, finalement, d'une démocratie, d'un travail parlementaire, de contrôler et d'évaluer l'action d'un gouvernement.
Claude Soula, pour vous, quand vous voyez, par exemple, la France Insoumise, eux, ils disent c'est un coup d'État social auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui.
Non, c'est pas un coup d'État social. Je veux dire, tout le monde était au courant. Il avait prévenu, effectivement. Je veux dire, la preuve, c'est que les syndicats ont joué le jeu. Donc, non, il y a pas de coup d'État là-dedans. Alors, après, ce qui est effectivement étonnant, c'est sa conception à lui, effectivement, de l'État, voire de la démocratie. Je veux dire, dans l'interview au Point, ça se termine à la fin, il y a une phrase très étonnante où il dit « J'assume cette part de transcendance qui fait qu'en France, le processus démocratique n'est jamais tout à fait parvenu à son terme. »
Ça veut dire quoi, en fait, finalement ?« Parvenu à son terme », Axel Kahn, quand vous lisez ça ? Le processus démocratique n'est pas venu à son terme. Pour vous, en France,
on n'est pas
arrivé au terme de la démocratie, finalement ?
Oui, je crois. Je crois, alors, il y a beaucoup de proximité dans la pensée d'Emmanuel Macron et de Tocqueville.
Tocqueville
avait une pensée de la démocratie et était un théoricien de la démocratie libérale qu'il regrettait, c'était un aristocrate, mais à laquelle il fallait bien se résoudre parce que c'était absolument inéluctable. Mais pour lui, la démocratie ne pouvait arriver à son terme que quand elle s'incarnait dans deux types de personnages, qui étaient d'une part les contre-pouvoirs, et d'autre part, et ça c'est très intéressant parce qu'Emmanuel Macron a annoncé la couleur, j'ai repris un article qui date de 2015, qui était dans le 1, où il écrit, donc bien avant d'être président, 2 ans avant d'être président, en juillet 2015, il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi. Dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Et on voit très bien ce qu'il veut dire là. Le processus démocratique, à un moment donné, doit s'incarner. Et je dois dire que c'était également la pensée de Charles de Gaulle.
D'accord, et tout ça se termine un
soir. Le président de Mitterrand aussi.
Et de Mitterrand aussi.
Ils se glissent tous avec des listes dans les habits du roi.
Et tout ça se termine un soir dans la cour carrée du Louvre, face à la pyramide en tout cas. Allez, l'info...
Mais des fois, un roi, on lui coupe la tête.
Ah oui,
c'est le danger.
C'est le problème. Et
ce serait bien que la démocratie arrive à son terme, justement, qu'elle y arrive, il faut la développer. Il ne faut surtout pas s'arrêter là.
On va en parler de cette interview. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
5 ordonnances, 36 mesures pour réformer le code du travail. Le gouvernement veut instaurer par exemple un plancher et un plafond pour les indemnités prud'homales. 3 mois de salaire à partir de 2 ans d'ancienneté, 30 mois de salaire maximum. En contrepartie, les indemnités légales de licenciement sont revalorisées de 25%. Le recours au référendum interne est élargi pour les entreprises de moins de 20 salariés. Ce n'est pas un dialogue social auquel nous avons eu droit, mais un monologue antisocial pour Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Cette réforme ne donnera rien de bon. Le MoDem, lui, considère que le texte prend en compte les attentes des entreprises comme celles des salariés. C'était dans l'air, c'est officiel. Laurent Wauquiez est candidat à la présidence des Républicains. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes le déclare dans le Figaro à paraître demain. Je suis candidat parce que je pense que la France a besoin de la droite et il faut que la droite soit vraiment de droite. Un homme toujours gardé à vue après l'enlèvement de Maïlys à Pont de Beauvoisin en Isère. Un homme de 34 ans. Il n'était pas sur la liste des invités du mariage, mais c'est un convive de dernière minute. Les déclarations de ce suspect au début de l'enquête enquête comporte des incohérences. France-Pays-Bas, c'est ce soir 20h45 depuis le Stade de France. Un match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est à suivre sur France Info.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est ce qui s'appelle un coup en deux temps. Premier coup, une interview du président de la République. Deuxième coup, une conférence de presse du Premier ministre. Alors dans cette interview, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, par exemple, qu'Emmanuel Macron, eh ben, quand il va se coucher, il aime bien lire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il lit ? On ne sait pas. Un livre de philosophie ou Picsou Magazine, ça ne se peut pas préciser. Mais c'est une des infos délivrées par le président de la République dans l'hebdomadaire Le Point. Une interview longue, une vingtaine de pages, durant laquelle le chef de l'État revient sur les débuts de son quinquennat, le manque d'héroïsme en politique même, et renvoie François Hollande à sa retraite, un document qui fera date, eh bien, pas vraiment, selon le député européen du Front National, Florian Philippot.
Sur le style, j'ai trouvé que c'était un peu pompeux. Mmh. Il veut se donner un petit style, donc ça ressemble parfois à une dissertation de terminale avec quelques citations.
Un peu forcé
appropriées, un peu forcé.
Voilà, on connaît l'intellectuel, il y a une forme d'intellectualisme non, tout mais le temps chez Emmanuel Macron.
Moi, ça m'amuse toujours quand je lis Fernand Braudel, du Paul Valéry, parce que ça me rappelle des dissertations de terminale. Mais ce sont ça reste de grands auteurs. Et que
j'allais vous dire.
Mais ce sont des références qui moi, à chaque fois, m'interpellent.
Voilà, Florent Philippot, ce matin, aux côtés de Jean-Michel Apathy sur France Info. Stéphanie Vonneux, moi, il y avait une question que je voulais vous poser, c'est que dedans, Emmanuel Macron parle des forces du monde ancien. Est-ce que vous, chez les Républicains, vous avez l'impression d'être le monde ancien ?
Ah, moi, je pense que oui.
D'accord, très bien. D'accord.
Ah oui,
c'est vous.
Moi, j'ai un problème, aucun problème à le reconnaître. Je pense que d'ailleurs, enfin, le nier serait une erreur. Et je pense que si on veut justement avoir quelques chances de revenir au pouvoir et en tout cas d'être audible auprès des Français, il faut savoir le reconnaître. Mmh. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, on parlait d'incarnation tout à l'heure. Ça veut dire d'être en capacité, bien sûr, de renouveler les idées. Mais pour reprendre en plus sur la discussion qu'on avait préalablement, je pense que sur la démocratie inachevée, on doit avoir aussi cette réflexion, à droite comme à gauche, hein, comme partout, de se poser la question de savoir, mais finalement, à quoi sert la politique ? À quoi servent les partis politiques ? Quelle est leur mission première ? Parce que finalement, on ne se pose pas la question. On se pose la question des pratiques, on se pose la question des méthodes, mais à aucun moment, finalement, on ne remet en question le rôle et la mission, finalement, de ces acteurs de la démocratie. Et je pense que c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'on pêche. Et quand on revient un petit peu en arrière, on voit que la vraie révolutionnaire, pour le coup, à l'époque, c'était Ségolène Royal, avec Désir d'avenir, qui avait quelque part un peu transcendé.
On a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron s'en est inspiré.
Mais je pense qu'elle avait eu raison trop tôt, et quand on a raison trop tôt, ça ne marche pas. Mais sauf qu'on s'aperçoit que cette oxygénation-là, la vie politique en a besoin, et les Républicains en particulier.
Alors, Henri Vernet, une interview de 20 pages, c'est quand même très long pour un magazine hebdomadaire, c'est quand même une très très longue interview. Pourquoi aussi longue ? Emmanuel Macron veut que ça soit une interview qui fasse date, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Et puis attendez, lui-même il a dit, enfin en tout cas son entourage a fait savoir que sa pensée était complexe.
Oui, c'est vrai.
Donc trop complexe, c'est vraiment pour un échange rapide entre deux portes avec des journalistes comme certains nous y avaient habitués. Et donc il faut qu'il développe cette pensée. Donc il y a ça, tout simplement. Alors le style après, je trouve que les critiques de Philippot, on entend ça tout le temps, c'est pas très bon. De toute façon, les présidents n'ont plus le verbe, je veux dire le verbe. C'était Mitterrand, c'était Pompidou, c'était voilà. Aujourd'hui, on sait plus simplement, c'est vrai. Bon.
Et justement, le fait d'accentuer juste la fin sur la lecture, c'est pour se référer à ces gens-là.
Il est littéraire, mais bien sûr, c'est un normalien, il est littéraire, il se place sous le patronage de Ricoeur, etc. De toute façon, il veut cela. Est-ce qu'il est réussi ou pas, après, à faire d'appréciation? Mais bon, la deuxième raison de cette longueur, c'est que c'est le pendant exact de son absence. On avait des images à tire-larigot du président, de Madame Macron, etc., tous les deux dans les, les costumes les plus divers et les plus valorisants pour lui, que ce soit en pilote. Pas toujours. Ouais. Donc, tout un tas d'images bien orchestrées et bien léché, etc. Et en revanche, un manque d'application, non seulement de lui-même, mais surtout un manque de poids lourd autour de lui, ce qui fait que, en effet, on a entendu ce que lui appellera l'ancien monde. Dans l'ancien monde, j'imagine qu'il casse également François Hollande. Mais sa pensée, disons que la vision, le cap qu'il voudrait donner aux Français, n'apparaissait pas du tout. Et d'où la baisse dans les sondages, d'où en plus des mesures. Franchement, il faut bien dire que ce début de quinquennat, est nettement à droite. Il est vécu comme une injustice par pas mal de gens. Bref, il lui fallait expliquer, d'où la longueur de cette interview, de rassurer, de remobiliser un petit peu, et puis d'expliquer, de donner la pédagogie.
Mais juste, s'il y a quelque chose qu'on peut pas reprocher à Emmanuel Macron, c'est pas de comprendre tout de suite quand il a fait une erreur et de corriger. Il la reconnaît pas généralement, mais il la corrige très vite. Sauf que là, je pense qu'il la corrige de manière excessive, c'est-à-dire 20 pages d'une pensée complexe, pour reprendre ses termes. Finalement, le besoin qu'il y avait d'explication, donc de pédagogie et peut-être de synthèse, on est un peu en sens inverse. Alors, ça nous permet de décortiquer, ça nous permet éventuellement d'aller fouiller, de sortir une ou deux mesures, mais je pense que finalement, le message envoyé de synthèse pour expliquer sa pensée et la synthétiser, l'objectif n'est pas rempli.
Claude Soula, il y a quand même, bien sûr, des idées, on parle aussi du programme, bien sûr. Dedans, il dit, et donc justement, il reparle de la CG avec cette phrase, il dit « Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes ». Donc, ça veut dire que là, les retraités, donc c'est la cible, les retraités avec quelques moyens, c'est la cible principale.
C'est pas la cible principale, disons que c'est ceux qui vont payer une partie de la facture des changements à venir. Bah, il s'inscrit, en fait, là, de ce point de vue-là, c'est quand même un programme plutôt situé à gauche qu'à droite. Parce que c'est les thèses de la Fondation Saint-Simon depuis longtemps, enfin c'est celle un peu de la deuxième gauche. C'est grosso modo, il y a eu des favorisés en France, ce sont tous les gens qui ne travaillent pas, les inactifs, les retraités, et ceux qui ont payé le prix de la facture depuis 20 ans de la crise, c'est les jeunes, c'est ceux qui n'ont pas de qualification. D'où la justification théorique du gouvernement qui est de dire « je remets le curseur pour essayer de réduire les inégalités ».
Des mesures début quinquennat à droite et
qui
maintenant
sont
programme
donc
gauche,
théoriquement des mesures de gauche, effectivement.
Axel Kahn.
Oui, je ne suis pas totalement d'accord avec cela, ou plutôt…
C'est à cause de votre…
Voilà, et plutôt je remplacerais gauche et droite par libéral et conservatrice. Effectivement, il s'agit, si vous voulez, d'un texte d'abord important pour le descendre en flamme, pour le critiquer, pour l'approuver. Je conseille aux gens qui ont le temps de le lire. C'est pas un texte vulgaire. C'est vraiment un texte important. Par ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est que la pensée libérale, néoclassique, d'un homme intelligent au 21e siècle, il faut lire ça. Il faut lire ça. C'est-à-dire les références, évidemment, à Myrta Sen, le remplacement de l'égalité par l'équité, l'égalité des chances, la capacité de Sen remplaçant effectivement la protection des personnes dans des situations figées, etc., etc. La mobilité, beaucoup plus effectivement que l'égalité, tous ces éléments-là, ce sont les stéréotypes de la pensée libérale moderne. Alors, le libéralisme appartient pour une partie, pour la partie sociétale et pour la partie politique également, plutôt à un courant de la gauche. C'est en ce sens que vous avez raison. En revanche, sur le plan peu économique, il est plutôt aujourd'hui partagé avec la droite.
Donc et c'est de droite et de gauche, quoi. Donc voilà. C'est ça, finalement. Et de droite et
c'est
de gauche.
C'est libéral. Libéral néoclassique.
Quand on fait une interview, donc c'est un acte de communication, on se pose toujours la question de savoir quelle est l'utilité, quel est l'objectif. Et je maintiens, et on voit, il y a une forme de cohérence, il y a pas plus qu'une forme de cohérence, d'ailleurs, il y a une vraie cohérence, il y a une profondeur d'analyse, incontestablement. Mais quel est l'objectif? Si l'objectif, c'est de répondre précisément aux attaques qu'il a subies sur le fait que, il n'y avait pas de vision, on ne voyait pas véritablement la synthèse, on n'arrivait pas à faire le lien entre toutes les mesures, je ne suis pas certaine, encore une fois, que cet article et cette interview.
Et pourquoi aujourd'hui, le jour des ordonnances, c'est le jour où son Premier ministre parle. Enfin, on a aussi l'impression que, par ailleurs, il a du mal à quitter la lumière.
Ouais, c'est pas le premier qui rappelle sa prééminence sur le Premier ministre. On a évoqué le Congrès tout à l'heure. Mais pourquoi aujourd'hui? Non, pas péril dans la demeure.
Moi, je crois qu'il y avait une tactique, là. Je crois qu'il y avait une tactique, c'est-à-dire le fond général, c'était effectivement l'article, et puis l'explication des ordonnances, la loi actuelle, c'était le Premier ministre.
Ce qu'on appelle la communication.
Voilà, ça, c'est...
Ou alors, il avait peur que les ordonnances se passent plus mal que ce que ça se passe.
Allez, on y revient dans un instant, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
La présentation ce matin de la réforme du Code du travail au syndicat, 5 ordonnances, 200 pages. Elle prévoit entre autres un plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel, à l'exception du délégué syndical, une réforme ambitieuse, équilibrée et juste pour le Premier ministre Édouard Philippe. Pour lui, elle va favoriser la négociation. Les GMES défendent, eux, leur emploi à l'Élysée. Une délégation de l'équipementier automobile de la Creuse était reçue ce matin par un conseiller du président de la République. Ses salariés protestent toujours contre l'offre de reprise de GMD qui ne conserve que 120 personnes. Les États-Unis demandent à la Russie de fermer son consulat à San Francisco et deux bâtiments diplomatiques. diplomatiques, Washington et New York. Une injonction ce soir du département d'État. Cet été, Moscou demandait aux Américains de réduire leurs effectifs diplomatiques sur le sol russe. Le Congrès américain venait de voter de nouvelles sanctions contre Moscou concernant l'Ukraine. Au moins 33 personnes sont mortes au Texas à cause de la tempête Harvey. Le bilan est provisoire. Les autorités se demandent si le pire n'est pas à venir car la décrue s'amorce. Et puis Kylian Mbappé, officiellement parisien, prêté pour un an. Cette fois, c'est fait pour le footballeur monégasque. Un prêt avec option d'achat pour un montant de 180 millions d'euros. La fin du mercato, eh bien, c'est ce soir à minuit en France.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va juste faire une petite pause avant de partir. Oui, c'est ça, comme ça on prend la forme, sortir du vestiaire puisqu'on va prendre la direction du Stade de France à Saint-Denis, France-Pays-Bas. Match crucial, nous dit-on, hein, pour la qualification de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Jacques Vendroux, bonsoir.
Bonsoir.
Alors le match vient de commencer, quelle est l'ambiance en ce moment?
Alors d'abord, super ambiance au Stade de France. Un Stade de France plein à craquer, une pelouse en excellent état. Et il ne fait pas chaud du tout, il fait même pas froid, c'est-à-dire une belle température. Et le score est toujours de 0-0. Et a priori, eh bien, on a l'air d'avoir le match en main. On domine légèrement depuis le début de la rencontre. Et c'est plutôt bon signe, évidemment, pour la suite de la rencontre.
Bien sûr. Oui, bien sûr, Jacques Vendroux, avec vous, on suivra en tout cas, bien sûr, sur France Info, cette rencontre, en tout cas, France-Pays-Bas, donc cruciale pour la qualification de la Coupe du Monde en Russie 2018, et même la météo, c'est en même temps, parce qu'il fait ni chaud ni froid, en tout cas, c'est ça. Une petite chose, Stéphanie Vonneux, des Républicains, on a vu quand même, aujourd'hui, par exemple, à France Info, vous savez, on fait des réactions de politique quand il se passe quelque chose. Ça a été très dur de joindre les Républicains aujourd'hui pour parler des ordonnances. Pourquoi finalement c'est si compliqué? Ça veut dire que vous soutenez totalement, finalement, aujourd'hui, ce processus de réforme de la loi travail. Est-ce que c'est finalement timidou? Vous êtes timidou envers cette réforme?
Je pense que c'est révélateur justement de toute la difficulté de cette mutation de la façon qu'on a de faire ou de voir la politique. Et c'est toujours assez difficile pour un élu, enfin, qui se dit de l'opposition, de reconnaître que son opposant finalement fait des choses avec lesquelles il n'est pas totalement en désaccord. Ouais, ça c'est un principe du genre, c'est une règle du genre. Mais l'élection d'Emmanuel Macron, au-delà du bonhomme, a montré que, mais ça on le savait déjà, mais il le met en forme, c'est ce que s'attendent les gens finalement. Ils disent soyez un peu intelligents, vous pensez tous que c'est plutôt pas mal, mettez vos égos là où je pense et puis avancez. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'ancien monde à propos des Républicains, c'est la nécessité de savoir prendre aussi sur soi et plutôt de se poser la question de savoir pourquoi c'est lui qui le fait et pas nous. C'est ça le sujet. Ouais. Et d'assumer qu'on aurait dû le faire et d'avoir le courage et la méthode pour le faire.
Henri Vernet.
Non, mais en effet, on est en plein dans le drame des Républicains. C'est que Macron a siphonné leurs idées, leurs programmes. Voilà. Écoutez, tout ça, Sarkozy, d'autres en avaient rêvé, mais ils ont calé devant la rue, devant la difficulté de faire, devant les syndicats, devant la difficulté de faire des réformes. Et aujourd'hui, ce dont ils ont rêvé, c'est Macron qui le fait. Donc c'est vraiment la difficulté pour eux de trouver un autre positionnement. Et que ce soit donc les ordonnances, que ce soit beaucoup de mesures, des mesures dont je disais, c'était clairement de droite, celles qui ont été prises depuis le début de l'été. Ne parlons pas de l'éducation. Enfin, Blanquer, c'est un homme qui vient de chez eux, qui aurait pu être leur ministre. Bref, aujourd'hui...
Mais bien sûr,
et si Macron réussit, et quelque part, ce sera un petit peu la mort des Républicains, parce que qu'est-ce qu'il leur restera comme terrain de manœuvre? À moins, en effet, de peser tout à droite, on verra les banquiers.
Non, sur un point, et comme je ne suis pas un homme politique ni un journaliste, je vais parler sur un autre point. Je n'aime pas l'opposition entre le nouveau monde et l'ancien monde. Ça me rappelle Tony Blair qui parlait de la vieille Europe et de la jeune Europe à propos de l'intervention en Irak. Et moi, je suis un ancien président d'université et la raison pour laquelle j'aime l'université, c'est qu'elle est comme les chênes, c'est-à-dire qu'elle veut conquérir dans la modernité le ciel, profondément enraciné dans l'ancien monde. Et le monde que j'aime, c'est celui qui est conquérant car il reste enraciné. Je n'aime pas l'opposition entre le vieux monde et le nouveau monde.
Il nous reste très peu de temps. Une dernière chose, parce que je devais vous poser question, Stéphanie Vonneux, on l'a appris pendant l'émission, donc demain dans le Figaro, Laurent Wauquiez annonce sa candidature à la présidence des Républicains. Pour vous, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, proche de Valérie Pécresse, est-ce que c'est un candidat intéressant, un candidat à combattre, un candidat dangereux, disent certains, pour les Républicains?
Non, moi, je pense que surtout qu'il faut que cette campagne se passe bien, parce qu'on attaque la énième élection interne. Élection interne au sein des Républicains, anciennement UMP. Oui, enfin, ça dépend dans quel état on ressort. Mais très de plaisanterie. Moi, je pense que surtout, mais je vais vous répondre, mais je pense surtout qu'il faut, une fois de plus, que cette séquence passe vite pour que les Républicains aient un chef, que ça se passe bien de manière à ce que sa légitimité ne soit pas contestée. Moi, j'émets un souhait, parce qu'il est quand même relativement probable que Laurent Wauquiez soit élu à la tête des Républicains. J'émets un souhait, c'est que justement, il déverrouille et que précisément, on ne retombe pas dans ce qui a fait nos malheurs, à savoir les petites chapelles, les combats de coqs, les positionnements pour le positionnement, et au contraire, on sache ouvrir. Et c'est précisément le positionnement de Valérie Pécresse qui donc lance son mouvement libre que je soutiens, d'ailleurs, qu'elle lance dans notre département, dans le Val d'Oise, parce que elle c'est vraiment dans une logique de mouvement pour engager la création d'idées, l'oxygénation. On parlait de désir d'avenir. Elle se revendique clairement de cette méthode, pas des idées, mais de cette méthode.
Ça va pas être simple avec Laurent Wauquiez en même temps.
Non, je pense que ça viendra au contraire renforcer les Républicains, qui est un parti, j'allais dire classique, qui est fait pour gagner des élections. On voit qu'on n'y arrive pas trop en ce moment, mais qui est fait pour gagner des élections. Et donc avec cette discipline qui est imposée, et il faut à l'intérieur des mouvements qui oxygènent les mouvements d'idées et la création d'idées.
C'est à suivre en tout cas. Merci beaucoup Stéphanie Vonneux d'être passée ce soir. Merci beaucoup également Axel Kahn. Claude Soula, l'Obs cette semaine, vous parlez de Jean-Michel Blanquer, je crois.
Ah non, c'était
la semaine dernière, pardon.
Cette semaine, nous parlons de Leïla Slimani et de son nouveau livre sur l'islam et les femmes et le sexe.
Et la une du Parisien aujourd'hui en France.
Écoutez,
demain.
C'est très pédagogique, c'est tout ce qui change avec les ordonnances.
Voilà tout que simplement.
Salariés, employeurs, tout ce qui change.
Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Akili. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Jean-Mathieu, je fais vite.
Tout est politique, allez-y.
Tout est politique, Emmanuel Macron à l'épreuve des ordonnances. Les invités, Stanislas Guérini, député de La République En Marche de Paris, ancien chef d'entreprise, Jérôme Fourquet de l'IFOP et un maire local, Jean-Pierre Muller de Magny-en-Vexin qui veut garder ses contrats aidés. Voilà.
Allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.